Déjà, bienvenue. Vous auriez pu aller ailleurs. Et vous avez décidé de consacrer ce temps et cette énergie à notre rencontre. Et comme l'a annoncé Sylvie, le sujet de ce soir, c'est la culpabilité. Vivre la culpabilité autrement. Donc, le programme, c'est la culpabilité, comment on la vit, et voyons si on peut le vivre autrement. Et on a choisi ce thème, peut-être vous étiez déjà là il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, on avait déjà abordé ce thème-là. Parce que ça nous semble être un thème important parce que la culpabilité, elle nous imprègne d'une certaine façon. Elle nous influence dans la relation à nous-mêmes, dans la relation avec les autres, dans le vécu des choses. Elle colore notre expérience et pas toujours de la meilleure façon. Donc on s'est dit, avec Trinley, dans le cadre de l'atelier des savoirs qui a été expliqué là juste avant, explorons ça et voyons s'il n'y a pas moyen d'en faire quelque chose. Parce que il y a deux aspects. Bon, vous savez où vous êtes, hein, le DACPO Bordeaux est quand même pas mal, comment on pourrait dire, éclairé par le bouddhisme, à minima. Donc, on s'est dit, est-ce que l'enseignement du Bouddha peut nous dire quelque chose sur la culpabilité? Et une dernière raison qui nous semble, on y reviendra certainement hein, sur cette question importante, c'est que bon, c'est pas le principe de la culpabilité, c'est bien ou pas bien, c'est que cette réaction de culpabilité à l'égard des choses, des situations, de notre vécu, génère de la souffrance, de l'insatisfaction, du décalage. On rate des rencontres à cause de cette culpabilité. Donc, il nous semblait important de l'identifier ensemble, de voir mais de quoi s'agit-il exactement, et puis de voir comment y répondre et est-ce qu'on peut en faire quelque chose d'autre que la subir ou rester dans cette habitude-là. Donc voilà pour donner un petit peu la perspective. On va donc bien la définir, voir ses effets et voir comment on peut faire autrement avec elle.
Quand on parle de culpabilité, il y a plusieurs façons d'en parler, de l'envisager. Il y en a au moins deux. Il y a la culpabilité factuelle, c'est-à-dire qu'on a transgressé une loi, par exemple, et on est objectivement, factuellement coupable d'eux, et on doit répondre de ses actes. De cette culpabilité-là, nous n'allons pas l'aborder. Nous allons nous pencher plutôt sur le sentiment de culpabilité qui accompagne ou non une culpabilité factuelle. C'est-à-dire qu'il est tout à fait envisageable, bien évidemment, d'être factuellement coupable et de en plus, avoir ce sentiment de culpabilité, c'est ceci dont on va parler. On peut, de la même façon, mais ça, on ne va pas l'aborder non plus, c'est juste pour le signifier, être coupable aux yeux de la loi et ne pas éprouver ce sentiment de culpabilité. Ça n'est pas nécessairement lié. De la même façon, on peut éprouver un sentiment de culpabilité sans qu'il y ait factuellement aucune transgression. C'est vraiment la perception de la faute qui nous fait ressentir la culpabilité. Mais peut-être pour être clair et pour poser les bases de notre réflexion, voyons comment définir le fonctionnement de l'être humain selon la vision bouddhiste.
C'est moi. C'était mon tour. Le petit précis rapide de psychologie bouddhiste. Et je pense que c'est important parce que vous allez voir, dans la description de l'être humain que l'on va faire, c'est un petit peu en décalage avec, comment on pourrait dire, notre façon habituelle de considérer l'être humain. Et ce point de départ-là, que sommes-nous? Comment fonctionnons-nous? On va vous faire une proposition, je vais vous faire une proposition. Partant de là, ça va nous permettre de revisiter ce qu'est la culpabilité. Le sentiment de culpabilité, comme l'a exprimé Trinet, parce que c'est ça qui nous mine. C'est toujours ce sentiment récurrent d'être en faute, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça, on y reviendra. Point de départ. On pourrait le dire très simplement, nous sommes des êtres connaissants. Très bonne nouvelle. Nous sommes capables d'éprouver les choses, d'expérimenter les choses. Ce que nous faisons sans cesse, jour et nuit, on éprouve, on ressent, on commente, on connaît. Je trouve ce verbe-là est le plus clair. Nous connaissons les choses d'une certaine façon. Nous éprouvons les choses d'une certaine façon. Comment ça marche? Assez brièvement. Connaître, ça veut dire éprouver ce que je suis et éprouver ce qui se passe autour de moi. Quel est le premier média qui me donne les informations? Ce sont les sens. Là, nous nous voyons. Ça dit beaucoup déjà. Nous nous entendons. C'est pas sûr, on verra après avec les questions. Nous nous entendons. On a des messages, des choses qui sont dites, et ça fait sens pour nous. Ça nous dit des choses. On voit, on entend, on sent, on goûte. C'est moins essentiel, mais quand même. Et il y a le toucher. Et donc, on a toute une série de messages qui nous viennent de l'extérieur, les faits. Et face à ça, vous voyez, je vous vois, vous entends. Et donc immédiatement, j'ai des idées là-dessus. Je conçois ce que je ressens. Et il y a toute une série de représentations en termes d'idées, de concepts, de notions. Je pourrais par exemple dire à Trinley, tu as vu quand même, le public est majoritairement féminin. C'est pas faux. Et donc, il y a des notions qui prennent place. Et dans le même temps, c'est très, très, comment dire, rapide, et ça tourne en boucle, immédiatement, il y a une émotion qui prend place. Les émotions prennent place. Et ici, si vous le permettez, je voudrais prendre 2 minutes sur le terme émotion, parce que comme la culpabilité a beaucoup à voir avec ça, être sûr que nous nous comprenons bien. Quand on dit émotion dans le cadre du bouddhisme, puisque c'est notre, entre autres, notre point de départ, l'émotion n'est pas seulement cette énergie de vie, voyez? Le désir, la colère, qui me permettent de me positionner par rapport à quelque chose. Vous connaissez ces phrases qui maintenant sont culturellement intégrées. Il n'y a aucune critique dans ce que je vais dire. Il faut que tu vives ta colère quand même. Vous voyez? Mais exprime-toi. Que diable. Le désir est quand même ce qui nous fait exister. Et donc nous avons une version de l'émotion qui est très ce qui nous fait exister. Je vais vite, hein? on pourra éventuellement en discuter après, mais toute notre approche des émotions, qui est assez récente, hein, ça a un siècle environ. Avant, on ne pensait pas les émotions comme ça. Maintenant, nous, occidentaux, on pense les émotions comme ça. Et il se fait, et je trouve ça très intéressant, je ne suis qu'en proposition. Hein. Bon, moi, j'ai eu ma petite idée sur hein, ce qui serait plus libérateur. Mais on est en proposition. Le Bouddha propose ceci. Il dit, l'attachement, l'aversion, la colère, bien sûr, c'est une énergie de vie. On n'y peut rien. Il y a des choses qui m'énervent. Il y a des choses qui me fascinent. Aucun problème avec ça. C'est une énergie qui s'élève. Mais notre problème, c'est que nous saisissons ça, solidifions ça. Nous le prenons pour moi. Et de plus, nous ne sommes pas complètement conscients des conséquences de ces émotions. De la souffrance que peut générer, ou l'insatisfaction, souffrance c'est un peu fort, de l'insatisfaction que peut générer l'attachement à quelque chose, par exemple. Ou de l'insatisfaction que peut générer la colère ou l'aversion par rapport à une situation ou quelqu'un. Donc voyez, on est dans une représentation des émotions très particulière. Quand du point de vue de l'enseignement du Bouddha, c'est que, et c'est un postulat assez qui vaut la peine d'aller voir. Excusez-moi, hein, c'est pas toujours très français, mais vous comprenez le sens. Hein. Qui vaut la peine d'être visité, c'est que, en fait, les émotions que nous, dans notre jargon bouddhique, on appelle les émotions perturbatrices ou les afflictions, sont des mouvements de l'esprit qui, dans une certaine mesure, voilent une forme de clarté, obscurcit une forme de clarté. Donc on est dans une autre représentation des émotions qu'habituellement. Rien qu'à ce titre-là, c'est intéressant d'y réfléchir, n'est-ce pas? Donc nous sommes sans cesse traversés par des jalousies, des orgueils, des colères, des fascinations, des attachements, des je ne vois pas, ce que nous on appelle l'ignorance, le fait de ne pas voir. Donc, résultat des courses, nous avons un corps qui a des sensations. Sur base de ces sensations, on génère des concepts. En plus, il y a la mémoire. Les concepts, ce n'est pas à chaque fois nouveau. Il y a des vieilles habitudes qui sont ancrées en nous. Et vous matinez tout cela d'émotions. Ça va? Donc, ça veut dire quoi? En réalité, que l'expérience que nous avons des choses, des situations que nous rencontrons, est une expérience en réalité qui n'est basée que sur nos représentations. Je ne voudrais pas plomber l'ambiance, hein, mais en fait, ce que nous sommes en train de dire, c'est que ce que je prends pour la réalité n'est en fait que ma réalité. Et je ne devrais pas dire que ma réalité est en fait ma réalité. C'est mon seul matériau. C'est avec ça que je rencontre l'autre, que je rencontre la situation. Avec mon histoire, avec mes émotions, avec mes représentations. Donc, ce que nous sommes en train de vous dire là, c'est que, quand on dit la vision bouddhiste de l'être humain, c'est que l'expérience que nous avons des choses au quotidien est une expérience qui est marquée par nos propres représentations, qui est limitée par nos jeux émotionnels assez perturbateurs. Pas de problème avec ça. Sinon que nous pensons que c'est la réalité. C'est ça le problème. Et en même temps, nous n'avons pas d'autres, pour le moment, nous n'avons pas d'autres points de référence que ça. C'est comme ça que nous connaissons les choses. C'est comme ça que nous éprouvons et que nous expérimentons les choses. Voilà une proposition de la psychologie bouddhiste, hein, issue de la psychologie bouddhiste. Alors ça peut être un peu, comment dire, on se dit, ah bon, finalement on n'est que confus. C'est ça, hein, si on ne perçoit les choses qu'à partir de nos représentations et que c'est limité par nos émotions, on n'est que confus, non. Oui. Les deux, hein. Oui, effectivement, on a une perception limitée des choses, mais si on dit les émotions et nos représentations voilent, la question est... Qu'est-ce que ça voile? Qu'est-ce que ça voile? Et c'est là où la perspective s'ouvre, c'est que ça voile quelque chose qui est du domaine de la clarté. Quelque chose qui est du domaine d'une reconnaissance beaucoup plus immédiate, nous y reviendrons après, beaucoup plus immédiate de la situation. Moins confusante ou moins confusée, je sais, il y en a qui sont très à cheval sur le français, mais il faudrait qu'ils lâchent prise pour ce soir, parce que parfois je suis... Donc confusé effectivement, mais il y a derrière ça quelque chose qui est du domaine de la clarté. Donc, très intéressante approche, c'est-à-dire ce que nous vivons n'est que notre version, mais c'est le point de départ pour pouvoir aller à la rencontre de quelque chose de plus ouvert, de plus vaste, de plus immédiat. Je vous demande de le prendre comme postulat, on le pose là. Ça nous semblait important de le poser comme point de départ parce que vous allez voir, on va y revenir. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir là, ce sont au moins une chose, c'est que ce que je prends pour la réalité n'est que la mienne. Ce que l'autre prend pour sa réalité n'est que la sienne. Donc, ça ouvre à une rencontre autre dès l'instant où on est d'accord là-dessus. Sinon, on se dit, moi ce que je vois est vrai, toi ce que tu vois est vrai, et on s'en sort jamais. Si on part du principe que ma vision n'est que la mienne et ta vision n'est que la tienne, à ce moment-là, vous voyez, on a un terrain d'exploration possible.
Alors, l'idée est intéressante, hein. Deux réalités qui se rencontrent. Le problème, c'est que dans la situation, je suis sûre que ce que je perçois, que ce que je comprends de la situation, c'est la réalité. Je n'ai pas le sentiment que ça n'est que ma version des choses. Et je suis tellement sûre de ce que je perçois, de comment j'interprète la situation, que c'est difficile de remettre en question la perception que j'ai des choses. La culpabilité s'inscrit et ressentie en nous lorsque nous avons le sentiment d'une erreur ou d'une faute. On va l'appeler erreur pour l'instant. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans une situation, si on s'appuie sur ce qui vient d'être dit, j'ai une représentation de la situation. Et de façon plus ou moins consciente, plutôt moins que plus, de façon pas très consciente, j'ai une représentation de ce que devrait être la situation. De ce que je devrais être dans la situation, de ce que devrait être l'autre dans la situation. C'est-à-dire que j'ai en arrière-plan en moi l'idée de ce qu'il faudrait que ça se passe pour que ça se passe bien, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est le décalage entre les deux, c'est-à-dire cette représentation pas très consciente de ce que les choses devraient être, en décalage avec ce qui se passe, qui génère le sentiment d'erreur, de faute, les choses ne vont pas, les choses devraient être autrement, etc., etc., qui génère un sentiment d'erreur sur lequel, on va le voir, je vais poser un jugement de valeur et ça va générer de la culpabilité. Donc cette première définition, approche, proposition de notre fonctionnement nous permet, par ce biais-là, d'avoir un regard sur ce que nous appelons nos erreurs de façon un petit peu plus consciente. Ce que les choses devraient être, ça fait partie du rêve, entre guillemets. Si la situation est autre, ça n'est pas qu'elle devrait être autrement, c'est que c'est la situation qui se présente au vu des causes et des circonstances qui ont été mises en œuvre. Les choses se passent comme ça parce que tout s'inscrit pour que ça se passe comme ça, entre guillemets. Quand je dis s'inscrit, ça ne veut pas dire prédéterminé. Mais on fait avec les uns les autres et les choses se passent ainsi. Mais on a toujours en nous cette idée que ça devrait être autre.
Creusons un peu la notion d'erreur, parce que la culpabilité vient de là. Il n'y a pas de raison de développer la culpabilité si je n'ai pas le sentiment de m'être trompé ou d'être en décalage ou de ne pas être juste. Donc essayons de voir, Trinley a commencé à le faire, ce que signifie une erreur. J'espère que ce ne sera pas trop théorique. L'erreur vient du fait que nous avons en nous une forme idéale. De fait, on a une idée en nous sur la façon dont les choses devraient se passer, dans la façon dont une relation devrait s'établir. Exemple. Dans la relation d'amitié, voire même dans la relation amoureuse. Moi, j'attends de l'autre des signes qui me signifient qu'effectivement l'autre m'aime. J'ai besoin de ça. L'autre n'a pas besoin de ça du tout. Il est très bien. Il est très bien avec la relation. Donc, il n'exprime pas ces signes. Et peut-être que dans la relation, moi, j'ai des difficultés à dire que j'ai besoin de ces signes. Donc, vous voyez le truc ? Est-ce que je ne suis pas à la hauteur de ce qui devrait lui faire dire qu'il m'aime ? Parce que la culpabilité, hein, tordue parfois. Un autre exemple. J'ai l'idéal de ce que devrait être quelqu'un, de ce que je devrais être. Jovial, communicant, surtout aujourd'hui. Il faut être fort, faut être communicant, il faut avoir le répondant, voyez, très voltairien comme ça, avoir de l'humour et tout ça. Et il se fait que je suis Rousseau, un peu timide, pas capable de répondre au quart de tour quand il y a une blague qui est faite, etc. Et je vais avoir le sentiment d'être en erreur parce que je ne suis pas à la hauteur de ce que j'imagine être quelqu'un qui assure. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce caractère-là, je réagis pas vraiment, je laisse venir, vous voyez, j'ai pas le répondant immédiat, et je me dis, mais je n'assure pas du tout. Je devrais être à l'image de lui ou elle, qui répond, qui a de l'humour, qui fédère les gens, etc. Et à côté de moi, il y a quelqu'un qui un jour vient me dire, oh, qu'est-ce que t'assures ? Tu maîtrises, tu réponds pas immédiatement, tu as l'air d'être calme, tu n'es pas dépendant des situations. Et donc, chacun est dans le décalage par rapport à l'idéal qu'il se donne. Et vous voyez, quand on dit « je prends ma réalité pour la réalité », c'est que quand moi je m'identifie comme n'assurant pas, quelqu'un d'autre peut m'identifier comme assurant vraiment. Et ça vaut la peine de revisiter les situations à cette image, à cette comment dire, aune-là, à cette lumière-là. Combien nous sommes relatifs à nos représentations ?
En fait, on est complètement soumis à nos représentations. On parlait tout à l'heure qu'on a une vision limitée des choses. Mais de la même façon, je vais avoir une vision limitée, colorée par mes représentations, colorée par la compréhension que j'ai des choses. Et je vais avoir une représentation de ce qu'est une personne. Pourquoi elle agit, pourquoi elle n'agit pas. Et par exemple, je peux me dire, si cette personne-là ne fait pas ou n'a pas envie de faire ce que je pense qu'elle devrait faire, c'est parce qu'elle a peur, c'est parce qu'elle n'est pas à la hauteur, c'est parce qu'elle a peur de ne pas assurer, etc., etc. Sans me rendre compte, bien évidemment, que pour l'autre, il s'agit d'une toute autre sphère. Si elle ne fait pas les choses, l'action qui était prévue ou envisagée, c'est parce qu'elle pense que toutes les causes et les circonstances ne sont pas réunies. Et donc on voit là deux visions des choses qui se télescopent, deux personnes qui ne se comprennent pas, alors que chacune de son côté est persuadée d'avoir raison et d'avoir compris l'autre. Et ça, de cette situation-là, on peut les multiplier à l'infini. Parce que c'est sans cesse que l'on croit savoir ce que pense l'autre et ce qu'est l'autre. On fonctionne comme ça. De la même façon, la façon dont on s'inscrit dans la relation à l'autre, la façon dont j'envisage ce que je devrais être pour l'autre, comme l'évoquait tout de suite Punso, peut générer aussi un sentiment de jalousie. Par exemple, je peux être jaloux de l'autre parce qu'il a des qualités potentielles ou que je lui accorde ou que je pense qu'il a et que je devrais avoir. Et ce sentiment de jalousie est là, va colorer complètement la relation, va peut-être la détériorer, alors qu'il n'y a aucune preuve de ça. C'est juste l'idée que je me fais des choses. Et sur cette base-là, je vais interagir jusqu'au moment où je vais m'en rendre compte éventuellement que je me suis trompée. Et là, le sentiment d'erreur, le sentiment de faute, entre guillemets, prend place, accompagné bien évidemment de la culpabilité. Et c'est ainsi que, dans notre fonctionnement actuel, si on n'y est pas attentif, beaucoup de relations sont colorées par le sentiment d'erreur émotionnelle, d'erreur relationnelle, parce qu'il y a une représentation trop figée de ce que sont les choses, ce que sont les êtres, et ce qu'ils devraient être, et ce qu'ils sont d'après moi. Et c'est toujours d'après moi, les choses sont ainsi. Maintenant, comment nous évaluons-nous nos erreurs ? On a quelques critères. Si on pense qu'on a fait une erreur ou si on pense que l'autre a fait une erreur, mais déjà, tournons-nous vers nous. C'est parce que les critères d'évaluation sont largement basés, bien évidemment, sur notre éducation, sur notre culture, sur nos choix éthiques, sur notre sexe aussi. En tant que femme, il y a des choses qui se font, et en tant qu'homme, il y a des choses qui se font, mais en tant que femme, il y a des choses qui ne se font pas, même si c'est de moins en moins vrai. Ça reste quand même un peu d'actualité. Ainsi, par exemple, au niveau culturel, pour les Orientaux, il s'agit à tout prix de ne pas perdre la face, de ne pas faire perdre la face à l'autre et de ne pas perdre la face soi-même. Donc, ça va colorer l'interaction entre les deux. Nous, les Occidentaux, on a plutôt une furieuse tendance à être un petit peu obsédés par la vérité. Il faut que les choses soient dites. Et il faut qu'elles soient dites, non pas parce que c'est aidant dans la situation. Bien souvent, il faut qu'elles soient dites parce que je les pense et parce que je pense que c'est bien que ce soit dit, etc. etc. Et ça, culturellement, c'est très intégré. Quelqu'un, mais tu dis pas la vérité, c'est pour moi une offense quand quelqu'un me ment. Quand j'ai conscience que quelqu'un me ment. Pour un oriental, ne pas dire la vérité peut être une façon de préserver l'autre ou de se préserver soi-même. Alors que pour nous, on a une toute autre vision des choses. Vous voyez comment ça fonctionne ? De la même façon, Les niveaux de langage, c'est très intéressant. La façon dont les uns et les autres s'expriment en fonction des générations, en fonction des moments, en fonction de la mode, en fonction de tout un tas de choses. Et aussi en fonction de l'éducation. Dans certains milieux, des gros mots, comme on disait autrefois quand on était enfant, des gros mots, la grossièreté n'est pas forcément perçue comme quelque chose d'offensant. Et dans d'autres milieux, s'entendre parler de façon grossière peut être très vexant et très blessant. Et c'est juste deux cultures, deux éducations qui se rencontrent et qui n'ont pas les mêmes repères.
Un jour en retraite, situation de retraite, voyez, cocotte minute, tout le monde détendu, mais quand même. Et donc, il y en a un qui n'allait pas bien du tout. Il n'allait pas bien du tout, et ça se voyait. Il était mal, il avait des difficultés, pas évident de rentrer en relation avec lui. Et il y a un des autres qui était en retraite qui le regarde et qui dit, tu sais, je tiens à te le dire, hein, t'as quand même une sale gueule. Et pour lui, c'était quelque chose de chaleureux. Vous voyez, un signe de soutien. T'as une sale gueule, ça m'inquiète. Inutile de vous dire que l'autre en face l'a reçu comme une flèche en plein cœur. Et c'est uniquement des histoires d'éducation, de langage et de code.
De la même façon, il y a tout un tas de critères qu'on n'a pas revisités et qui vont déterminer notre évaluation d'une erreur ou pas. C'est tout ce qui est de l'ordre de la croyance. Et c'est des croyances qu'on n'a pas nécessairement revérifiées, dont on n'est même pas vraiment conscient. C'est là, c'est présent en nous. Par exemple, pour certains, quelqu'un qui ne parle pas en société, quelqu'un d'un peu stupide, de rien avoir à dire. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, quelqu'un qui parle trop ou qui s'exprime, c'est un espèce de fanfaron qui la ramène tout le temps. C'est louche, hein, c'est pas clair. Et il y a tout un tas de croyances comme ça. Alors, je sais pas, il y en a... par exemple, il y en a une qui est rigolote, moi j'aime bien cette espèce de croyance... dans le milieu du travail. Oh, mon patron ne peut pas se passer de moi. Comme on dit, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Et on a toujours le sentiment que notre présence est indispensable. Et pourquoi pas? Ou précieuse, ça peut l'être. Mais cette croyance-là, on ne l'a pas revérifiée. Et pourtant, ça devient une base d'évaluation de ce qui se passe. Et de la même façon, et là de façon, en principe, beaucoup plus consciente, il y a tout ce qui est de l'ordre des choix éthiques. Par exemple, ne pas ôter la vie, ne pas tromper l'autre par la parole, volontairement et pour lui nuire, etc., etc. Ça va devenir un critère d'évaluation pour moi. Le problème, et c'est juste que ce soit un critère d'évaluation, parce que ça me permet de rester dans les rails de l'éthique que j'ai choisie, le problème, c'est que je vais poser ce regard par rapport à ce que fait l'autre, alors qu'il n'a pas nécessairement fait les mêmes choix éthiques, et ça va devenir un critère de jugement de l'autre. Ça ne va plus être un critère d'évaluation de l'éthique, ça va être un critère de jugement. Et donc on est là, vous voyez, dans des zones qu'il est intéressant d'aller revérifier, parce que bien souvent, notre façon d'interpréter, on va dire, l'erreur, amène un jugement qui génère la culpabilité ou le rejet de l'autre. La culpabilité par rapport à soi ou le rejet de l'autre.
Excusez-moi, j'écoutais pas, je suis sûr, pas sûr qu'elle l'ait dit. Je
prends ça pour un signe de confiance.
C'est que le... Sommes-nous conscients des critères qui nous font penser qu'on est dans l'erreur? C'est ça qui est important. On a le sentiment d'erreur, mais est-ce qu'on est conscient que ça vient d'un décalage d'éducation, ça vient d'une culture différente, ça vient des croyances ça... Et on n'a pas cette clarté, pas encore, on va voir comment la développer, pour, on est juste dans un sentiment d'erreur sans arriver à voir quelle est la cause de ce sentiment. Et on se laisse avoir par cette émotion de malaise, de mal-être qui s'élève, sans vérifier si, mais est-ce que c'est pertinent ou non? Est-ce que c'est fondé sur une croyance ou est-ce que c'est fondé sur les faits?
Allez, on attaque la culpabilité. Allez, on est parti. On l'a déjà amorcé, hein, cette réflexion sur la culpabilité. En fait, la culpabilité va naître d'un jugement porté sur une erreur bien sûr basé sur des critères d'évaluation plus ou moins clairs et plus ou moins conscients et surtout plus ou moins vérifiés. Voilà. Et c'est intéressant ce rapport à l'erreur parce que quand on fait objectivement une erreur, il y a l'erreur relationnelle, hein, comme on l'a vu, il y a plusieurs types d'erreurs. Mais quand factuellement on fait une erreur, je parle d'une erreur pas par rapport à la loi, mais quand on se trompe dans une façon de faire, quand on se trompe, quand on blesse l'autre, le jugement est immédiat et la culpabilité s'élève instantanément. Ça démarre au quart de tour. Et c'est intéressant parce que je ne vois pas comment on pourrait apprendre ou évoluer dans la vie sans rencontrer les erreurs. L'erreur est inhérente à la connaissance, à l'apprentissage, à la relation. C'est inhérent. On apprend à être en relation et nécessairement, on est limité dans cet apprentissage. Mais ce mode... Cette façon d'accueillir l'erreur conditionne ou non la culpabilité. C'est clair ce que je raconte, ça vous parle? En fait, on a un rapport très émotionnel et confus à nos erreurs. C'est très on a cultivé entre guillemets cette habitude de réagir par la culpabilité bien souvent. Et ça s'élève mais instantanément, dans l'instant même où je perçois l'erreur que j'ai faite, la culpabilité s'élève. Et en plus, si les autres m'ont vu. Là, alors là, la culpabilité est beaucoup plus forte. Prenons un exemple très, très stupide, très, très ordinaire. Vous savez, il y a une espèce de légende. Les bouddhistes ne se mettent pas en colère. Vous êtes dans un centre, admettons, vous allez dans un centre bouddhiste, enfin, je suis dans un centre bouddhiste, admettons, et quelqu'un m'énerve, et je me mets en colère après cette personne. Déjà, sur le moment, je ne vois même pas que je suis en colère, je suis juste dans la réaction immédiate. Et tout à coup, je prends conscience qu'il y avait des gens autour de nous, et qu'il me regarde d'un air étonné. Quoi ? Une moniale qui se met en colère ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là, tout à coup, je n'ai plus que ça présent en moi. Je ne suis plus que culpabilité. Ça vous dit quelque chose, hein ? Je vois bien. Et pour des trucs très, très stupides, hein ? Très bénins, hein ? Et ça fonctionne au quart de tour.
C'est donc... L'exemple que vient de donner Trinley, c'est ce qu'on appelle, et qui est inhérent à la culpabilité, la globalisation. Elle a pris l'exemple du bouddhiste en colère, ce qui, rassurez-vous, n'arrive bien sûr jamais. Mais sinon, on va prendre un exemple de, comme la situation de maintenant. Nous sommes deux conférenciers, donc... Les conférenciers sont censés être affables et patients à l'écoute des questions des uns et des autres. Et puis, admettons qu'au moment des questions-réponses, il y a quelqu'un qui pose une question et que cette question m'énerve. Et donc, je ne le montre pas. Oui, oui, monsieur. Et puis, il revient avec sa question. Oui, mais je tiens à insister. Et donc, je suis toujours patient, hein, parce que je suis bouddhiste, donc je réponds avec patience. Et puis on continue comme ça, et puis troisième fois, dit oui, mais je tiens quand même à dire que... Et à ce moment-là, moi je dis, Écoutez, monsieur, vous m'énervez maintenant.
Ça calme.
Ça, voilà. Et donc, il y a 250 personnes qui viennent de voir qu'un lama bouddhiste vient de s'énerver pour une peccadille. Comment le processus va prendre place maintenant? Et vous allez voir, hein, c'est chacun, je suis sûr, peut se reconnaître là-dedans. L'erreur ayant été faite. Parce que c'est une erreur, c'est quoi? C'est l'émotion, c'est la fatigue, c'est un jeu de circonstances. Peut-être que le lendemain, ça ne se serait pas passé, ou la veille, mais là, ça s'est passé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se produire là? Ce qu'on appelle la globalisation. C'est-à-dire, ne va être présent au moins dans celui qui a fait l'erreur, ou qui a ce sentiment d'erreur, l'impression qu'il n'y a plus que ça. Et donc, au moment où il va dire, est-ce qu'il y a une autre question? Ce sera complètement prégnant dans la façon de faire avec. Et cette globalisation, c'est un processus qui est vraiment puissant. On pourrait l'appeler l'effet airbag, c'est-à-dire tout à coup, pff, l'erreur qui a eu lieu, petite ou grande, elle prend tout l'espace. Et ça va durer. Hein. Ça contamine notre relation à nous-mêmes et aux autres. Et en plus, alors il y a deux choses. La première, c'est que ça ne nous empêche, cette globalisation-là, cette impression qu'il n'y a plus que ça, ça nous prend tout le cœur, là, vous voyez ? Nous empêche de réinscrire ce qui s'est passé dans une histoire. Je ne sais pas, moi, pour reprendre l'exemple, hein, mais on pourrait prendre aussi l'exemple qu'a donné Triné. Je suis arrivé, voilà, j'étais fatigué, puis cet homme pose une question sur quelque chose que je n'ai pas préparé. Il y a toujours des raisons qui font qu'à un certain moment, l'émotion prend place. Mais je ne peux plus inscrire la situation dans un historique, dans des séquences, dans un ensemble de situations, de causes et de circonstances qui m'ont amené à ça. Je suis juste pris par la situation. Ça m'aveugle d'une certaine façon, pour le dire comme ça. Et un autre aspect du vécu de la culpabilité, c'est qu'il y a une sensation d'irrémédiable. On a l'impression d'être dans un cul-de-sac. On se demande, mais comment je vais me sortir de là? Entre moi qui ai l'impression d'avoir ne pas été juste, le regard des autres, tout ça mis bout à bout, je me suis dit, mais comment je vais me sortir de ça? Vous voyez, hein? Du coup, enfin, je ne sais pas si c'est du coup, je ne sais pas lequel arrive avant, mais il y a cette idée, je vais la traduire de façon très simple, mais je suis nul. La culpabilité nous amène dans cette espèce de jugement sur nous-mêmes. Ce manque de clarté par rapport à l'erreur. La globalisation fait que de dire, mais je m'en sortirai jamais. Et puis, vous savez, c'est ce genre de raisonnement. Et puis, c'est comme d'hab. J'y arriverai jamais. C'est toujours pareil. Ou à l'inverse, si tout à coup, c'est nouveau comme situation. On dit, j'ai jamais eu ça. Comment je vais faire? J'assure vraiment pas. Vous voyez, hein, tout ce genre de raisonnement. Et je l'ai déjà dit, je le redis là. Il y a quand même, avec la culpabilité, outre la globalisation et le jugement sur ce que je suis, une dévalorisation, une espèce de blessure dans l'estime de soi, pour le formuler comme ça. Il y a ce sentiment que je n'ai pas le choix. La culpabilité nous amène dans un non-choix. Je n'ai plus d'espace de réactivité. Quand je parle avec des gens qui sont dans la culpabilité, dans l'accompagnement d'une manière ou d'une autre, c'est toujours, c'est ou ça ou ça. Et ça, je ne peux pas le faire, donc je suis obligé de faire ça. Vous voyez? Et il n'y a plus d'espace de dire, mais attends, peut-être on peut revisiter ta façon de voir les choses. Ouais, mais non, tu ne te rends pas compte de ce qui s'est passé, tu ne te rends pas compte, hein, c'est évidemment l'autre qui ne voit pas. Tu ne te rends pas compte de ce qui s'est passé. Et il y a tout un truc, toute une situation qui se ferme, et ce sentiment profond, il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je dis, dans ce que nous disons, c'est de ne pas avoir le choix. Donc voyez, effet airbag, je suis nul, j'ai pas le choix. C'est douloureux quand même. Là, je le décris de façon un peu intense, mais ça peut se faire sur rien du tout. Sur une réponse malheureuse, ou sur une non-réponse, ou sur une situation. Et pendant un petit moment, il y a cet effet airbag qui prend place. Puis on peut se dire, oh, allez, tant pis. Mais il y a quand même quelque chose qui s'inscrit. Quand c'est plus massif, là, c'est plus difficile.
Le danger, on pourrait dire, c'est que on risque, à force de rencontrer de façon récurrente la culpabilité, et c'est vrai qu'il y a des, on est plus ou moins, comment dire, enclin à réagir par la culpabilité dans les situations d'erreur. À force, il y a quelque chose qui s'ancre dans la personnalité elle-même et qui fait que ça revient de façon un peu systématique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une baisse de l'estime de soi, avec éventuellement une perte de confiance en soi. Et en fait, on peut être amené, de façon encore une fois non volontaire et non consciente, à cultiver en soi, à perpétuer en soi une souffrance et une difficulté qui se réinscrit systématiquement, quelles que soient les situations. Ça peut amener également à vivre dans un ressentiment constant. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours, n'étant pas conscient de ce décalage entre la vision idéale de ce que les choses devraient être et l'acceptation de la situation, étant incapable d'accepter la situation telle qu'elle est parce qu'elle ne correspond pas à ce que je voudrais qu'elle soit, le risque, c'est de vivre dans un ressentiment constant, d'être tout le temps mécontent, de cultiver la colère, sans se rendre compte qu'on est toujours propulsé, nourri, enfoncé, ce que vous mettez les mots que vous ressentez, hein, par la culpabilité et par ce sentiment de perte de confiance en soi. Il y a aussi, bien sûr, dans un registre beaucoup plus négatif et beaucoup plus difficile, ce qu'on appelle la victimisation, c'est-à-dire de se positionner toujours en victime parce que, décidément, on n'est pas à la hauteur d'eux. Hein, il n'y a pas de possibilité d'exister aux yeux des autres de façon égalitaire. Je peux être que moins bien que les autres. Et bien sûr, quand on est propulsé par la colère, il peut y avoir le goût de la vengeance qui s'inscrit, hein, de façon plus forte, et du coup d'être tenté de se venger de ce qui se passe, parce que les choses ne sont pas supportables, ne sont pas tolérables ainsi. Donc on voit que le fait de se sentir coupable en tant que tel, c'est désagréable, mais globalement ça peut passer. Le problème, c'est quand ce sentiment de culpabilité s'inscrit de façon récurrente. Parce que ça va générer de la colère, de la jalousie bien sûr, puisque les autres sont mieux, il n'y a pas de raison, et aussi une forme d'orgueil qui ne semble pas être de l'orgueil au premier abord, c'est-à-dire c'est d'être décidément plus nul que tout le reste de l'humanité. Et c'est aussi une forme d'orgueil, puisque l'orgueil est une façon de se démarquer des autres, que ce soit en supériorité ou en infériorité. Donc on voit que les conséquences sur soi d'un sentiment de culpabilité récurrent peut être assez difficile à vivre au bout du compte.
Où en sommes-nous, les amis?
Pardon?
On les a pas amenés. Donc, la question, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est la vision bouddhiste de l'être humain. Vous vous souvenez, on a vu, hein, l'idée qu'on est pris par nos représentations. On a vu la vision de l'erreur, que l'erreur, c'est toujours par rapport à un cadre de référence ou un idéal, pris par nos propres émotions, les critères culturels, éducation, croyances, etc. On a vu le fonctionnement de la culpabilité, ce qu'elle est, ce jugement sur soi-même, la globalisation, ce sentiment de faute, ce sentiment de ne pas avoir le choix, avec les conséquences que ça a. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait?
qu'est-ce qu'on en fait ?
On se détend. Tout à fait. Tout à fait. Oui. On commence par se détendre, tout à fait. Mais, deux approches. On va faire très schématique. L'approche du pardon, qui est une approche qui est propre à notre culture et à notre vision des choses, et je pense qui est efficace. Et puis, il y a une autre approche. Vivre la culpabilité autrement. Rapidement, sur le pardon, pour sortir du fonctionnement de la culpabilité, il y a un moment, il faut que je pardonne. Il y a un rapport avec quelqu'un m'a offensé, que ce soit moi-même, il me faudra me pardonner à moi-même, ou que ce soit pardonner à l'autre. La première étape du pardon consiste à arrêter le ressentiment à l'égard de l'autre, arrêter le sentiment de vengeance à l'égard de l'autre. Le mot est fort, hein, sentiment de vengeance à l'égard de l'autre, mais c'est quand même là. Vous voyez ? Quand j'ai été offensé, ou que moi-même je me suis offensé, c'est pareil, hein, ça marche en interne. Oui, mais il va voir ce qu'il va voir. On ne peut pas pardonner si à un certain moment, on ne lâche pas cette volonté de vengeance. Ce qui va nous amener dans un deuxième temps, bon, c'est peu de le dire, le pardon c'est un travail sur soi-même, n'est-ce pas ? Tout le monde connaît cette situation dans la cour de récréation où deux enfants s'offensent mutuellement, pour le dire comme ça, voilà. Et la maîtresse ou le maître vient et dit « Bon, vous vous dites pardon, pardon, pardon. » Inutile de dire qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Le pardon, ce n'est pas juste dire pardon, c'est un travail sur soi qui suppose que je ne me venge pas à l'égard de l'autre ou à l'égard de moi-même. Et donc ça demande un retour sur soi, et c'est ça qui est merveilleux dans le pardon, c'est ça demande de revisiter la relation à l'autre. Elle a été abîmée, factuellement ou dans le ressenti, qu'importe. On parle du sentiment de culpabilité. Elle a été abîmée. Donc est-ce que je suis prêt, par un travail sur moi-même et d'une relation à l'autre, est-ce que je suis prêt à revisiter ça ? Est-ce que je suis prêt à redonner de la valeur à celui qui m'a offensé ? Et si j'ai à pardonner à moi-même, est-ce que je suis prêt à me redonner de la valeur ? Malgré tout. Ça ne se décide pas comme ça, n'est-ce pas ? Revisitation de ce que l'on a vécu, et puis sortir de cette idée de vengeance où il est nul. Où, vous voyez, il y a un historien, on a trouvé ça, Jean Delumeau il s'appelle. C'est un historien spécialiste de l'histoire du christianisme notamment, et il dit « Pardonner est un geste de confiance à l'égard d'un être humain, que ce soit l'autre ou que ce soit moi-même. » Il y a quelque chose à réinvestir. Il y a quelque chose à prendre le risque, confiance, de renourrir une relation malgré tout. Donc, vous voyez, le pardon, c'est pas juste « excuse-moi ». C'est un travail de revisitation de la relation humaine.
Oui, j'ai quand même précisé que parfois, ce fonctionnement basé sur la culpabilité est tellement profondément ancré, ou il invalide tellement notre capacité à entrer en relation avec les autres ou avec l'autre, quel qu'il soit, qui a parfois besoin d'un accompagnement, et c'est important de le savoir, que ce soit un accompagnement professionnel ou un accompagnement amical ou un accompagnement, il y a besoin d'en parler. C'est-à-dire que on a vu cet effet globalisant de la culpabilité a besoin d'être démonté, entre guillemets. Ce qui va nous permettre de repositionner l'erreur à sa juste place, c'est justement de reséquencer ce qui s'est passé, de relire l'histoire au fil des différents éléments et des différents paramètres qui ont conditionné ce sentiment d'erreur. Et parfois, l'accompagnement est vraiment, peut nous permettre vraiment d'être... c'est vraiment utile, et pas négliger ça, parce que quand la culpabilité devient entravant dans les relations, c'est un peu dommage.
Là, nous approchons, nous abordons le pardon très rapidement. Pub. Le week-end qui suit cette conférence, qui a lieu le 2 et 3 juin, c'était pas ça ? Le 2 et 3 juin, nous explorerons le pardon avec beaucoup plus de détails. Venez nombreux.
Si ça vous intéresse.
Deuxième perspective, parce que c'est quand même sur ça que vous êtes venus, autrement. Et là, mesdames et messieurs, il va falloir changer complètement l'angle de la caméra. On va aborder les choses complètement différemment. Nous nous sommes inspirés donc des éléments de la philosophie bouddhique pour nourrir notre réflexion et dire, bon, comment on aborde ce sentiment de culpabilité ? Si on prend les éléments dans l'approche bouddhiste, comment on fait ? La première condition, c'est est-ce que j'ai envie de m'en sortir ? Parce qu'on l'a vu, hein, victimisation, ça peut être un mode de fonctionnement, au bout du compte, dans lequel on s'y retrouve. Ça donne une existence aussi. Hein ? Là, l'idée, c'est de dire, ok, c'est la motivation, l'intention, je souhaite sortir de ça, première étape. Deuxième étape, et c'est là où on est dans une démarche bien spécifique, est-ce que je suis prêt d'entrer en relation avec comment je fonctionne ? Est-ce que je suis prêt d'entrer en relation avec comment je fonctionne ? Est-ce que je suis prêt d'avoir le courage d'aller voir en moi qu'est-ce qui se passe ? Oui, mais... Attention, piège. Si je vais voir en moi ce qui se passe sur base de la culpabilité, dès que je vais voir ce qui ne va pas, voyez, hein, je vais être pris. Pardon, ben je le savais. Au moins avant de regarder, j'étais tranquille parce que je n'avais pas vu tout, mais là, ça me plombe encore plus. Donc, dans cette démarche de rencontre avec soi-même, vous voyez ce qui est en train d'arriver là, la méditation pointe le bout de son coussin. Le propos de cette approche bouddhiste, c'est de développer ce qu'on appelle l'attention et la vigilance. L'attention et la vigilance. Révolutionnaire du point de vue de la culpabilité. S'il fallait résumer en une phrase ce que sont l'attention et la vigilance, c'est ceci. Considérer ce qui s'élève en moi avec douceur et sans le juger. On est capable de ça. Hein ? On l'a vu au début, vous vous souvenez, on a décrit l'individu. Il y a les émotions, il y a les voiles, il y a les obscurcissements. Est-ce que je suis capable de douceur envers moi-même ? Est-ce que je suis capable de m'asseoir, de regarder ce qui se passe en moi, douloureux, hein, parce qu'il se peut que ce qui s'élève en moi, c'est, vous mettez des guillemets, hein, ouais mais quand même, salaud, c'est ça, hein, ouais mais il m'a fait ça, hein, ou à l'inverse, regardant en nous-mêmes, on dit, oui mais t'es nul, quelque chose de récurrent, et souvenez-vous, nous prenons nos représentations comme la réalité. Donc si je pense que je suis nul, c'est évidemment que c'est vrai. Et là, nous développons un outil qui est déjà présent en nous, un état d'esprit, une qualité de l'esprit qui est déjà là, qui ne demande qu'à être cultivée, c'est d'arriver à se rencontrer dans nos états d'esprit, dans nos émotions, dans nos côtés parfois un peu minables, dans nos côtés aussi lumineux, et d'accueillir tout ça. Je le formulerai comme ça. Dans le pardon, quand on a expliqué le pardon précédemment, on rencontre les états mentaux pour ce qu'ils nous disent. Vous voyez ? J'ai du ressentiment, il faut que j'arrête de me venger ou d'avoir ce sentiment de vengeance à l'égard de l'autre. Il y a une réflexion comme ça. Ici, on est dans une autre rencontre avec nous-mêmes. C'est-à-dire, l'attention et la vigilance m'amènent à faire quoi ? Quoi qui s'élève, ni bon ni mauvais, je le laisse passer. Alors tout le monde se dit, enfin peut-être pas tout le monde, certains se disent, oh super ! Bon, ceux qui ont l'habitude se disent, ouais, il revient avec son truc, parce que c'est pas évident. Mais l'idée, c'est quand même ça. Quoi qu'il s'élève, je l'accueille et je le laisse passer. Je n'écoute pas ce qui est dit dans un premier temps. Parce que si j'écoute ce qui est dit, je retombe dans mes jugements. Et donc, je me pose, je regarde, allons voir. Plein de culpabilité, je sais pas, il y a eu un conflit avec quelqu'un, j'ai pas assuré, j'ai dit ce que je voulais pas dire, j'ai même fait ce que je voulais pas faire, j'ai cassé un truc et tout le monde l'a vu. Enfin, vous voyez, hein, le genre de situation. Je me pose et j'accueille ça. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ça va être très désagréable. N'est-ce pas ? Le souvenir de ça. Ça va être très désagréable. Attention. Ceux qui prennent des notes, écrivez ça, parce que c'est important. Et pourquoi, au nom que c'est désagréable, il faudrait le rejeter ? Et pourquoi, au nom que ce serait désagréable, ce serait souffrance ? Vous voyez l'histoire ? J'explique plus. Exemple. Exemple, désolé pour ceux qui viennent souvent. L'idée, vous avez un gars qui s'entraîne au marathon de Bordeaux, 42 km, quelque chose. Il s'entraîne et vous allez le voir à la fin de son entraînement et le gars il dit oh, douloureux, douloureux, ça me tire ici, les muscles, en plus la sueur, ça m'irrite. Et la respiration difficile, et on lui demande ses souffrances. Donc, ah non, pas du tout. Je souffre pas, je m'entraîne. Vous trouvez pas ça extrêmement intéressant ? C'est-à-dire, parce que ce type veut gagner les 40 km machin, il est prêt à endurer une douleur qu'il n'identifie pas comme souffrance. S'il expérimente ça en dehors de son entraînement, vous allez voir comment il va se plaindre. Mais dans le cadre de son entraînement, non. Donc nous, culpabilité et tout, il faut que je travaille avec, je me pose, je regarde ce qui se passe et le souvenir de ce qui s'est passé, l'émotion qui s'élève avec ça, me met dans quelque chose de douloureux. Et monsieur l'a très bien dit, on se détend. On se détend parce qu'on ne peut pas faire l'économie de ce désagréable par le souvenir de ce qui s'est passé. C'est ça l'attention et la vigilance. C'est ne pas juger ce qui se passe, que ce soit agréable ou désagréable, ou aucun des deux, ou les deux à la fois, qu'importe. Je respire, je n'écoute pas ce qui est dit, je traverse quelque chose, je donne sa chance à l'esprit, je donne sa chance à cette clarté de l'esprit d'expérimenter autre chose que comme d'hab. À 10h30, il faut libérer, c'est ça ? Donc, voyez, attention, vigilance. C'est-à-dire, je me pose, j'essaye de me détendre. Non, avant ça, je souhaite sortir de ce dans quoi je suis. Mais comme la culpabilité est souffrance, j'ai vraiment envie de m'en sortir. Donc je me pose. Et je décide quoi ? De regarder ce qui se passe et de ne pas réagir a priori. Laisser sa chance à l'esprit. Laisser sa chance à la clarté. En psychologie bouddhiste, on dit, dès l'instant où l'esprit est occupé par un état d'esprit, par une émotion, par une pensée, tout le reste est évacué. Vous avez déjà expérimenté ça. Quand on est dans un truc, on n'est pas dans l'autre. Le truc peut être complexe, nuancé, n'empêche que quand on est dans une chose, on n'est pas dans l'autre. Et l'idée, c'est de ne pas se laisser faire ou se laisser avoir par l'état d'esprit qui s'élève. Donc je le rencontre, c'est douloureux, et qu'est-ce que je fais ? Je ne bouge pas. Je laisse sa chance à l'état d'esprit suivant. Et si je ne le force pas, si je ne le fabrique pas, je laisse sa chance à quelque chose qui est du domaine de la clarté. Souvent, on ne croit pas ça. Souvent, on ne croit pas ça. Pourtant, l'enseignement du Bouddha, il est fondé là-dessus. Il est fondé sur cette idée que si je ne me laisse pas avoir par ma représentation de maintenant, je peux laisser sa chance à autre chose. Parfois, c'est très fugace. C'est un instant et... Hein, la forêt s'éclaire et l'ombre revient, pour le dire comme ça. Mais à force d'entraînement, il y a un autre état d'esprit qui prend place, qui n'est plus du domaine du jugement. Il y a une forme de confiance qui prend place. Ce qui suppose, comme je vous le disais, un minimum de méditation. Méditation, c'est quoi ? C'est se familiariser à cet état d'esprit. C'est rien de... Méditer, c'est pas chercher des expériences ou vivre quelque chose de spécial. C'est juste on se pose et les états d'esprit qui prennent place dans nous, plutôt que de les suivre et de les nourrir, ce qu'on fait tout le temps, on décide de ne pas les suivre et les nourrir. Et ça donne un espace autre à nos processus. Vous voyez, ça n'invalide pas le pardon. On ne dit pas que la méditation c'est mieux que le pardon. On ne dit pas que la méditation est mieux que le pardon. Mais cette approche-là, je trouve que c'est ça, vivre la culpabilité autrement, c'est d'arriver à poser un regard sur soi non jugeant qui met à mal la culpabilité. C'est de poser ce regard doux, non jugeant sur soi-même qui donne sa chance à un autre état d'esprit de prendre place. Accompagné par la familiarisation de la méditation, par exemple. Ça vient étayer ce regard sur soi-même. Et, je conclue, c'est parfois douloureux, c'est pas agréable de se voir comme on est, mais si on est dans l'entraînement et qu'on sait qu'on va vers plus de clarté, le désagréable, on n'est pas doloriste, hein, mais le désagréable, on peut le traverser. On sait pourquoi, comme le marathonman là, qui veut gagner ses 40 kilomètres, c'est douloureux, mais pour lui c'est pas de la souffrance parce qu'il sait où il va. Si nous voulons clarifier l'esprit, bien sûr qu'il y a des moments qui ne sont pas agréables. Mais comme on sait où on va, on le rencontre, on le traverse et ça ouvre à un autre mode de connaissance.
Ce travail, de cette familiarisation avec nos états d'esprit, un des fruits, hein, mais un des fruits possibles, c'est de se rendre compte que la représentation que j'ai n'est pas si solide que je l'imagine quand je suis au cœur de la culpabilité. Ça va amener de la souplesse, petit à petit, par rapport à ce que je perçois, par rapport à ma vision de la réalité, et petit à petit, amenuiser ou être plus conscient du décalage entre ma représentation de la situation et ce fameux idéal de ce que ça devrait être. Et petit à petit, d'être plus clair, puisque ce qui génère le sentiment d'erreur, en grande partie, c'est ce décalage-là, autant travailler sur cet aspect-là, et donc développant la conscience de la fugacité de nos représentations, on est à même, petit à petit, d'en être moins prisonnier.
Donc, évidemment, dit comme ça, fastoche. Ce dont on vous parle là, c'est un entraînement, c'est un changement de vision, c'est un changement d'habitude. Mais j'ai lu comme s'il fallait des preuves. Hein. Je pense pas qu'il en faille, mais je le partage avec vous. Il y a 2, 3 jours, j'ai lu un article qui est d'ailleurs sorti en 2002 dans la Libre Belgique, un journal belge. C'est pour dire que les études faites sur les neurones pour les personnes qui développent cet état d'esprit dont on parle, méditatif, accueil de ce qui se passe, non-jugement sur les états d'esprit, cette conscience de l'impermanence, il y a dans le fonctionnement du cerveau une souplesse qui prend place et une plus grande facilité à accueillir les situations difficiles. Je ne dis pas ça pour prouver quoi que ce soit, hein. Ça illustre, ça montre que effectivement les neurosciences notamment commencent ça commence à faire écho avec cette démarche, je ne vais pas dire nouvelle parce qu'elle a déjà quelques années, mais autre de la rencontre avec soi-même. Sommes-nous prêts à nous accueillir tels que nous sommes en nous entraînant, en nous familiarisant à ne pas nous juger? Sommes-nous prêts à laisser sa chance à l'esprit, à générer l'état d'esprit suivant qui ne soit pas le même que le précédent? Voyez, c'est ça l'idée du travail sur la culpabilité. Et je vois déjà un bras qui se lève. Je ne sais pas qui va faire circuler les micros, mais on a un temps là, une demi-heure environ pour les questions-réponses. Avant de poser la question, attendez l'arrivée du micro. Et déjà, merci de votre patience et de votre écoute.
Il y avait quelque chose que je n'ai pas très bien compris, c'est l'histoire du pardon. Parce que si on est capable de se pardonner, ça veut dire qu'on n'est sans doute plus déjà en culpabilité, à mon avis. Et puis, il y a aussi autre chose que j'aimerais bien comprendre, c'est le passage. Je m'explique. À un moment donné, à quel moment, je dirais, on arrive à faire preuve un peu de bienveillance par rapport à soi-même pour ne plus être dans le jugement? Il faut bien, à un moment donné, passer d'une étape qui s'appelle la culpabilité à autre chose. Et comment se fait ce passage? Voilà.
En fait, le passage, je pense que nous choisissons, entre guillemets, là, mettez vraiment des guillemets, de changer quand on a un trop-plein de souffrance et que c'est plus possible. On ne change pas uniquement par idéologie, on change parce qu'on n'en peut plus de ce fonctionnement et il faut que ça cesse. Donc je pense que ce passage-là, il est à ce moment-là. Et quand il était question du pardon, c'est justement parce que la rencontre récurrente avec la culpabilité devient insoutenable, que petit à petit, on enclenche un travail sur soi qui amène au pardon. Et effectivement, quand on s'est pardonné à soi-même, ou quand on a pardonné à l'autre, ce sentiment de culpabilité n'est plus. Mais il y a tout un travail. Et à ce sujet, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, de lire le bouquin de... c'est Jean Monbrouquette, hein. Jean Monbrouquette, Comment pardonner? Où il établit dans une vision chrétienne, puisqu'il est prêtre ou pasteur, je ne sais plus, il établit le pardon en 10 étapes très, très progressives pour amener justement cette réconciliation avec soi-même qu'est le pardon. Mais justement, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin, enfin nous n'allons pas aller beaucoup plus loin par rapport à ça, parce que ce n'est pas vraiment le thème de ce soir, on le développera le 2 et le 3 juin. Je suis désolée, hein. Mais c'est tout une réflexion en soi.
Et la deuxième question, si je me souviens bien, c'est comment poser ce regard bienveillant? C'est ça. Bon, c'est à la serpe, hein, la réponse. Ça manque de nuance, mais je pense toute l'approche psy, encore que les dernières écoles psy, ça a changé, mais toute l'approche psy, c'est de revisiter le contenu des pensées, du vécu, etc. Toute l'approche bouddhiste ne consiste pas à visiter le contenu des pensées, des émotions, des affects, mais à les rencontrer dans leur mouvement sans écouter ce qu'elles disent. Et c'est là où il y a une douceur et une bienveillance qui peut prendre place, c'est-à-dire je m'en fous de ce que dit mon esprit, j'accueille ces mouvements. Il y a quand même une démarche, comment on pourrait dire, réflexive. Une démarche de réflexion, hein, de dire mais je ne suis pas obligé de rentrer en relation avec moi-même avec autant de violence. C'est-à-dire, je peux m'accueillir, aussi pire que je sois, je peux m'accueillir comme je suis. Je peux m'accueillir comme je suis. Et il faudra quand même rajouter que dans l'approche bouddhiste, à un certain moment, il y a un accompagnement nécessaire. C'est-à-dire, à un certain moment, il y a quelqu'un qui vous accueille tel que vous êtes, ce qui vous permet, vous, de vous accueillir tel que vous êtes. Et il faut rassembler les causes et les circonstances qui permettent ça.
Juste pour que ce soit bien précis, le fait d'accueillir les mouvements des pensées pour ce qu'elles sont, c'est dans le cadre de la méditation, ça n'est pas dans le cadre de la relation à l'autre, bien sûr.
Vous avez dit la culpabilité est ressentie en nous avec le sentiment d'erreur. Sauf que cette culpabilité peut être née de l'enfance, peut être née de situations finalement où ce sont les parents qui ont ressenti que vous étiez une erreur finalement.
C'est un peu dur hein, d'entendre ça, mais c'est du moins ce que peut ressentir l'enfant. Alors, je vais... Il y a des personnalités qui se construisent, entre guillemets, sur la culpabilité. Culpabilité en lien avec des difficultés relationnelles avec les parents, avec éventuellement de la violence, quel que soit le type de violence, qui peut être aussi liée à la façon dont l'enfant reçoit l'éducation. Ça n'est pas nécessairement les parents qui sont culpabilisants, entre guillemets, c'est parfois l'enfant qui lui-même culpabilise parce qu'il n'est pas, entre guillemets, aimé comme il souhaiterait l'être. Encore une fois, il fonctionne aussi sur représentation et ce qu'il attend dans la situation n'est pas nécessairement ce que donnent les parents. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'amour, ça signifie qu'il se manifeste autrement. Parfois, il n'y a pas d'amour, effectivement, et parfois, il y a des blessures fortes dans l'enfance. Et le problème, c'est que l'enfant n'a pas la maturité nécessaire que pour avoir une perception globale de la situation. Il ne perçoit qu'au travers de son petit monde assez limité, au moins au départ. Et donc, il se sent coupable de ne pas être aimé, coupable de s'il est victime de violence, quel que soit le type de violence, il va se sentir coupable de ça. Et là, la personnalité va se construire sur la culpabilité. Et là, il s'agit d'un travail autre qui passe bien souvent par la psychothérapie parce que c'est une souffrance profonde qui est à travailler. Ceci dit, ce travail psychothérapeutique, s'il est nécessaire, peut être accompagné par ailleurs, par cette réflexion par rapport à nos représentations, etc., et par un regard plus détendu sur notre histoire. Mais ça demande à être accompagné de toute façon par des professionnels ou par des personnes d'expérience.
Oui, c'est une question sur l'idéalisation. J'ai entendu tout à l'heure qu'une des clés, c'était accepter le décalage entre la situation telle qu'elle se présente et la situation telle que je l'avais idéalisée. Je crois que c'est Triné qui avait dit ça. Donc ma question, je me dis, l'idéalisation, enfin il me semble, je ne sais pas, c'est pour ça que je pose la question, elle est quand même nécessaire dans le sens où c'est en idéalisant qu'on est motivé par une relation, qu'on est motivé pour aller vers une situation qu'on souhaite. Donc le décalage, bon, il faut le diminuer, mais je dirais, est-ce que l'idéalisation, elle est en soi néfaste ou est-ce qu'elle est quand même source d'énergie? Est-ce qu'il faut la garder ou est-ce que c'est vraiment que sur le décalage qu'il faut travailler?
Alors, peut-être on est un peu piégé par les mots et par le sens des mots. Avoir un idéal de vie, avoir un projet de vie, pour moi, ce n'est pas de l'idéalisation, c'est un objectif, mais je parle au niveau des mots, hein, juste au niveau des mots. C'est un objectif que je me fixe, un but à atteindre, etc. L'idéalisation vient générer de la souffrance, c'est quand la façon d'atteindre ce but est prédéterminée de façon non consciente et me met en défaut parce que ça ne se passe pas comme je l'avais prévu. Et donc, c'est ce décalage-là qui ne colle pas. Ce n'est pas le projet en lui-même. C'est, par exemple, la façon dont je vais atteindre ou réaliser ce projet. J'ai une vision. Je vais prendre un exemple, parce que sinon ça peut paraître un peu flou. Je fais une formation, par exemple, pour être une profession que je connais un peu, comme ça, pour être infirmière, admettons. Je suis motivée pour ça, je fais mes études pour ça. Et de façon, encore une fois, assez floue et bien souvent pas du tout consciente, je me représente ce que je serai en tant qu'infirmière, le cadre dans lequel je vais travailler, l'équipe éventuellement avec laquelle je vais travailler, les conditions qui me seront données pour prendre soin de mes patients. Tout ça, c'est préétabli dans ma tête, mais j'en ai pas réellement conscience. C'est une évidence, je veux être infirmière, et c'est ça, être infirmière. Ça s'appelle une représentation idéalisée. Après, quand je vais entrer dans l'activité même, si ça ne colle pas à ma représentation, soit je suis nulle, soit le service est nul. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne se passe pas comme je veux. Et du coup, je n'ai pas accès à ce qui est possible dans ce cadre-là. Je suis dans le rejet de ce qui ne correspond pas à mon idéal. Et c'est là où il y a une différence entre projet et idéalisation. Est-ce que je suis claire là-dessus ? Le nombre de fois qu'on pense dans la journée ou qu'on se dit après coup, ça devrait pas être comme ça. J'aurais dû faire autrement. Si j'avais su. On est souvent en train de se dire ça. Et ça vient nous parler de la représentation préétablie qu'on avait de la situation. Parce que c'est pas facile à voir. Mais on fonctionne que là-dessus, tout le temps. On a toujours une idée de ce qui devrait être.
Moi, je serais un petit peu plus... Ce n'invalide pas ce que dit Trinley, mais je vais répondre de façon un peu plus radicale. Moi, je dirais, le propos du chemin dont on vous parle, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire de... sortir de nos rêves source de déception pour accueillir les situations telles qu'elles sont afin de les amener quelque part. Et ce quelque part, c'est le projet dont parle Trinley. Mais à un certain moment, on ne peut pas faire l'économie de rencontrer la situation dans ce qu'elle a de plus confrontant. Cru. Confrontant et cru. Et... Alors, est-ce que vous pourriez reposer votre question dans le micro, parce que vous avez doublé les deux personnes là, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une faute. Hein, Pourriez-vous répéter ? Ça résiste. Voilà, vous êtes puni, vous n'avez pas parlé dans le micro, et bien maintenant le micro ne marche plus. Ok, est-ce que...
Parlez dedans.
C'est extraordinaire.
C'est un gag très très au point.
Écoutez, écoutez. Est-ce que vous avez dit... Non, la question c'est, mais qu'est-ce que la réalité? Si tout le monde... Oui, c'est ça l'objectivité. Alors, l'objectivité, qu'est-ce que la réalité si chacun est dans sa représentation? N'est-ce pas? Alors, dans ce genre d'intervention, il y a toujours deux, trois questions, on se dit avec Trinley, j'espère qu'ils ne vont pas le poser. Pas. Parce que ça nous fait effectivement rentrer. Et ce qu'on dit génère une question comme celle-là, elle est légitime. Si on dit, nous ne sommes que dans nos représentations, mais une fois qu'on a enlevé les représentations, qu'est-ce qui reste? C'est ça, où est l'objectivité? Eh bien, tout à fait. Et je botte pas en touche, hein, mais si c'est une porte d'entrée qui demanderait une conférence au moins à elle toute seule, et la question qui s'ouvre là, le questionnement, le cheminement qui s'ouvre, c'est d'aller à la rencontre de la réalité, et quelle est-elle? Au-delà de nos représentations, quelle est cette réalité? Je pense que déjà, et c'est un point de départ précieux, si je suis conscient que ce que je vis ou que ce que je perçois n'est que ma représentation, ou est déjà ma représentation, si je commence à être conscient de ça, déjà, ça ouvre une perspective. Après, sur ce qu'est la réalité en elle-même, c'est une discussion théologique presque. Vous voyez? Ça demain, oui, philosophique, c'était pour le teasing. Mais voilà. Désolé de répondre de façon un peu frustrante.
Comment traiter la culpabilité quand elle est liée à des actes récurrents de la vie de tous les jours dont on ne peut pas s'empêcher de poser? Par exemple, une personne qui va arrêter de fumer, qui tient une semaine et puis à chaque fois elle recraque, et ça entraîne une culpabilité qui fait que ça peut prendre même, ou ça peut être sur n'importe quoi, un régime, des petites choses du quotidien qui font qu'à chaque fois on retombe dans les mêmes pièges. Et je ne disais pas ça pour toi.
Je pense que dans nos attitudes récurrentes, hein, il y a le même fonctionnement, on pourrait dire, que ce qui est occasionnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose, un geste, une façon d'être, une façon de faire, qui s'élève, entre guillemets, en dehors de ce qu'on pourrait appeler notre volonté. Pourquoi ? Quand on entend, par exemple, je prends un exemple, la cigarette, on entend « fumer n'est pas bon pour la santé ». J'entends ça et je me dis « bon, je vais arrêter de fumer ». Je suis au niveau de l'information. J'ai cette information-là. Maintenant, pour que concrètement j'arrête de fumer, il faut que j'intègre complètement, que j'ai une connaissance réelle des conséquences, par exemple, de la cigarette, que ce soit au niveau physique, au niveau relationnel, là on prend la cigarette, mais ça pourrait être n'importe quoi, les conséquences que ça a au niveau physique, par exemple, que j'en ai vraiment conscience et que j'ai vraiment envie d'arrêter de fumer. Parce que je peux rester sur l'information « c'est pas bon pour la santé », sans pour autant avoir intégré cette connaissance qui fait que je sais que ça n'est pas bon et du coup, je vais changer mes habitudes. Prenons un autre exemple. Je sais que tuer n'est pas juste dans mes choix éthiques, ôter la vie n'est pas juste. Seulement, j'avais une furieuse habitude, quand un moustique se posait sur moi, on n'en parlait plus. Et c'était sans conscience. Hein. J'éliminais la bestiole parce que je n'avais pas envie qu'elle me pique. Je rencontre le bouddhisme et j'entends parler que ça, c'est vraiment pas juste, que je suis en train de causer des causes de souffrance pour l'animal que j'ai tué. Mais de la même façon que j'entretiens en moi une façon de faire qui n'est pas juste. J'ai cette information-là. J'y réfléchis. Je réfléchis aux conséquences. J'intègre cette façon-là. Après, reste, la bestiole se pose. Oh, j'aurais pas dû. J'ai quand même... Mais je l'ai quand même tué, mais je sais que j'aurais pas dû la tuer. C'est une étape supplémentaire. Et petit à petit, à force d'intégrer cette connaissance, ce qui va s'élever spontanément, parce que c'est ça le truc, il faut que ça s'élève spontanément de la connaissance que j'ai. Pour que ça s'élève spontanément, à un moment donné, le moustique, je vais souffler dessus pour qu'il s'éloigne et je ne vais plus le tuer. Parce que ce sera complètement intégré. Et je pense que parmi nos difficultés, c'est qu'on a en nous ancré des habitudes. Et bien souvent, si on prend la cigarette, par exemple, c'est des habitudes de compensation. Bien souvent, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi quelque chose qui nous pose dans la société, qui nous donne une contenance, qui nous met plus à l'aise, etc., etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles on fume, par goût aussi, hein. Entretenir ça parce qu'on aime ça. Quoi qu'il en soit, on a entretenu ça de façon forte et il faut se déshabituer, j'allais dire désintoxiquer, se déshabituer de ce geste-là parce que je sais que ça n'est pas juste. Tant que je ne suis pas convaincue, profondément convaincue, qu'il est nécessaire d'arrêter ce comportement, je continue. C'est plus fort que soi. C'est vraiment une question de motivation et d'intégration de la connaissance. Ça convient comme réponse ?
Merci. Ça marche ? Oui. Quand la culpabilité est de l'ordre du suicide, en l'occurrence, je soulève quelque chose de ses enfants, Où est-ce qu'on... Là, on aborde des sujets...
Des sujets difficiles, bien sûr. Voilà. Mais... Juste une, je ne suis pas sûre de bien avoir compris la question. Est-ce que c'est la culpabilité qui s'élève quand on est en deuil suite au suicide d'un proche ?
C'est ça.
C'est par rapport à ça.
Par rapport à ça, et surtout lors de ses enfants. On élève, on éduque, on fait de son mieux, je pense. Mmh. Et puis voilà, comment on fait ? La culpabilité, elle est inévitable. Je parle à mon nom.
Oui.
Je me permets de...
Le vécu du deuil suite à un suicide est fortement coloré par la culpabilité. Je pourrais dire que pratiquement tous les vécus de deuil sont colorés par la culpabilité, mais dans le cadre d'un suicide, c'est fortement marqué par la culpabilité, parce qu'on a toujours le sentiment qu'on aurait dû voir, qu'on aurait dû prévenir, que si on avait fait autrement, que si on avait dit ça, que si on avait fait ça, les choses se seraient passées différemment. Et là, en parler en deux mots, c'est trop compliqué. Je crois que c'est important, là, d'avoir un espace de parole, de pouvoir vraiment échanger et de clarifier ce qui s'est passé, de reparler de ce qui s'est passé et de recontextualiser l'ensemble des paramètres. C'est vraiment... Alors, en règle générale, suite à la mort d'un proche, c'est important de se faire accompagner. Suite à un suicide, c'est indispensable de se faire accompagner.
J'avais une question un peu plus drôle sur la globalisation par rapport à la bienveillance. Tout à l'heure, vous avez parlé de la globalisation par rapport à la culpabilité. De l'autre côté, doit-il ou y a-t-il une globalisation par rapport à la non-culpabilité, finalement, à l'état de entre guillemets, de bienveillance qu'on a par rapport à soi-même ?
Quand madame a posé la question, quelque chose qui m'est venu à l'esprit, qui peut répondre à l'ensemble. Je pense que c'est plus facile à entendre là que là, vu la densité de... C'est que, pareil, hein, c'est issu de l'enseignement du Bouddha, et pour nous, c'est nous permet de mieux voir la réalité. On réfléchit beaucoup en termes d'entité, d'unité. Moi, toi, les situations dans ce qu'elles ont de cristallisé, en tout cas dans la façon dont on les aborde, c'est très cristallisé. Or, ce que nous vivons, c'est sans cesse un jeu de causes et de circonstances. Réfléchissons à la situation de maintenant. Toutes les causes et les circonstances qu'il a fallu rassembler pour que cette situation-là se passe. Qu'on ait eu l'idée de faire la conférence, qu'il a fallu en informer, qu'on l'ait préparé, que vous ayez vu l'info, que vous dites « tiens, je vais venir », qu'il y ait, je sais pas, 250 personnes qui sont venues. Il a fallu rassembler tout ça. Et on vit ça comme une entité. C'est-à-dire, il y a un public en face de nous. Il n'y a pas un public en face de nous, il y a 250 individus qui chacun vivent la complexité de ce qu'ils vivent. Donc, quand on va dans le sens de la bienveillance, ou quand on réfléchit à la densité des situations qui nous échouent, c'est d'apprendre, c'est un entraînement, hein, c'est une porte d'entrée, c'est, enfin, voilà, c'est une perspective que j'explique là, d'apprendre à sortir de cette façon d'aborder les choses de façon tellement cristallisée, solide, et de les vivre beaucoup plus en termes de « mais quelles sont les circonstances qui ont amené ça ?» L'ensemble des circonstances qui ont amené ça. Plus direct, plus indirect. Et donc dans ce cas-là, quand on parle de la bienveillance, moi je ne pense pas qu'il faille y réfléchir en termes de globalisation, mais plutôt d'irriguer ce qui me relie à moi et au monde en termes de bienveillance. Le mot n'est pas bon, mais contaminer l'environnement par la bienveillance. Vous voyez hein, ce que je veux dire, je trouve pas le... Irriguer, je l'ai dit avant, contaminer. Il y a quelque chose qui imprègne. Plutôt que de globaliser, la globalisation, c'est vraiment, comment on appelle ça, dictatorial. Il y a quelque chose qui s'impose, alors que dans la bienveillance et dans la compréhension de l'interdépendance, il y a quelque chose qui est plus du domaine de l'imprégnation, vous voyez.
Juste pour compléter, quand on parle du processus de globalisation dans la culpabilité, je pense que tous ceux qui ont expérimenté la culpabilité au moins une fois dans leur vie, et peut-être il y en a quelques-uns parmi nous, c'est cette espèce de sentiment qui s'élève quand on se sent en faute et qui fait qu'on n'a pas commis une faute. C'est qu'on est en faute et on est fautif. Et ça occupe tout l'espace et ça va complètement conditionner mon rapport à l'autre dans l'instant ou à la situation. C'est ça le phénomène de globalisation dans le cadre de la culpabilité. Ce serait sympa, dans le fond, si la bienveillance s'élevait comme ça, d'un coup, et occupait tout l'espace. Je pense que c'est un travail plus progressif et plus en profondeur. Là, c'est vraiment une émotion qui s'élève, la globalisation, enfin un ressenti. C'est quelque chose d'assez dérangeant, au fond.
Nous vous proposons d'en rester là. Donc... On va redonner la parole à Sylvie. Au nom de Trinley, nous vous remercions d'être venus, de nous avoir écoutés. Et si vous voulez approfondir tous ces sujets-là, quels qu'ils soient, hein, le suicide d'un proche, la globalisation, le pardon, bienvenue à la date que j'imagine Sylvie va nous annoncer. Et encore une fois, merci de votre patience.